Bonjour, c'est François Angelier. En cette fin d'année, je vous propose de découvrir les 5 objets culturels les plus excitants de 2024. Depuis le bottin, signé Bruno Montpied, de ceux qui transfigurent leur jardinet à coups de totems et de statues géantes, jusqu'aux fumeries d'opium parisiennes de la Belle Époque, en passant par Marvel, Mocky et Michael Matisse, un artiste belge, auteur d'une sublime adaptation d'Au cœur des ténèbres de Conrad. Cette année, Noël sera mauvais genre. À découvrir sur France Culture et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture. Je filme parce qu'autrement je m'ennuierais. Je filme parce qu'un besoin irrésistible de peindre ce que je vois m'habite. Une tête dans la rue qui me frappe, une phrase que dit quelqu'un dans un bar quelconque, un petit entrefilet dans un journal qui devient un roman, quelque chose qui me révolte et alors je veux faire partager cette révolte à un maximum de gens. Jean-Pierre Mocky et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui a décidé ce soir de mettre un Mocky dans son moteur. Histoire d'être sûr de filer droit, c'est-à-dire de rouler en zigzag, de ne racter aucun fossé, aucune borne et de finir dans la salle du conseil municipal. Mauvais genre Mocky suite à la sortie aux éditions Rouge Profond de la Somme consacrée au cinéaste par Éric Leroy, historien du cinéma. Un ouvrage érudit et méthodique pour tenter enfin de cerner et d'apprécier au plus près l'homme aux 75 années de cinéma sous toutes les formes, de la tête contre les murs, à tous flics. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre. Mauvais Genre ce soir quasi en totalité consacré à Jean-Pierre Mocky à l'occasion de la sortie d'un livre important, un livre signé Éric Leroy que je salue. Bonsoir Éric Leroy.
Bonsoir François Angelier.
C'est un livre somme sur Jean-Pierre Mocky, parce que Jean-Pierre Mocky, on a lu évidemment tous chronologiquement tous les livres qu'il a publiés de mémoire, de souvenirs, d'autobiographie. Livre, comme disait Victor Hugo, c'est de l'histoire écoutée aux portes de la légende. Voilà, un peu, livre assez personnel. Et vous, vous avez décidé d'en savoir plus et de savoir clairement ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, avec qui, comment, pourquoi. Et vous y êtes arrivé, bravo. Éric Leroy.
Merci beaucoup.
Bienvenue à Mauvais Genre. Vous serez soumis aux questions impitoyables de Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Comment va-t-il ?
Mais merveilleusement.
Bon, de Christophe Beer, bien évidemment.
Bonsoir.
À la fois exégète, témoin, acteur et abondamment cité dans ce volume de Alain Crugère, que je salue.
Bonsoir.
Pareil,
François.
Exégète, acteur et abondamment cité dans ce volume, Alain Crugère, qui fut producteur sur France Culture, qu'il le redevienne, c'est notre souhait le plus cher.
Et puis. Et on a vu une émission avec Jean-Pierre sur la bouffe, c'est-à-dire que les recettes secrètes. Vous pouvez écouter si on ne parle pas de la bouche pleine.
Absolument. Donc écoutez là cette émission. Pour l'heure, vous êtes producteur du Cercle.
Absolument.
À Canal+, où l'on entend souvent le grand oui.
On en sent tout le temps très discrètement, Philippe Rouillet.
Paco Mtielman, que je salue.
Je te salue, vieil océan.
Voilà, c'est moi le vieil océan qui ne cesse de battre les murs des façades de Radio France. Paco Mtielman, moquiste fiefé, comme on dit.
Oui. Certes.
Avec nous également Paloma Hidalgo, que je salue, et qui va nous parler d'un personnage qui aurait pu intéresser Jean-Pierre Mocky.
Oh oui, largement.
On en dit un petit peu.
Oui, on va vous parler ce soir notamment d'un roman sulfureux, délicieux et délictueux, Voyou de velours.
Voyou de velours.
Dénommé Georges Écoude.
Écoude, romancier belge. Mais on n'en dit pas plus, on verra à la fin de l'émission. Et en attendant, on a demandé bien évidemment Laurent Polleret de nous confectionner un portrait de Jean-Pierre Mocky. Il a peiné à trouver tellement de choses, mais il a fini par trouver.
Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Bon, on va le faire muer, écoutez. Ça devient... Mais écoutez, le perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu as allé foutre là-haut? Il est con celui-là aussi. Oh! Allez, moteur!
Vite, vite! Il y a le soleil qui va sortir, mes enfants!
Allez, moteur! Moteur!
Vite au départ, allez, allez, allez!
Allez, voilà, moteur!
Dans 30 secondes, on raccorde absolument!
Allez, moteur!
Allons-y!
Moteur! Clap de fin éventuellement. Moteur! Moteur!
Vas-y, vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Moteur!
Allons-y!
Moteur! Oh putain, moteur!
Voilà, Éric Leroy, on donne quelques précisions à nos auditeurs. Moteur, c'était où, quand, comment?
Ce qu'on vient d'entendre, c'était dans Striptease, en effet. C'était un documentaire tourné à l'occasion d'un tournage d'un film de Jean-Pierre Mocky à Cherbourg. Donc c'était un documentaire fait pour la télévision belge.
Alors là,
c'était un peu mise en scène, hein, quand même.
Oui.
C'était un peu répété, un peu organisé, mais ça permet quand même de comprendre un peu le tournage et la production de Jean-Pierre Mocky et surtout sa fabrique en direct, et la manière dont il tournait, dont il dirigeait les acteurs et la manière dont il travaillait avec ses techniciens et ses équipes. C'est du Jean-Pierre Mocky là qu'on vient d'entendre.
Christophe Bier, vous qui avez tourné avec lui, c'était si mis en scène que ça? Ça ressemble un peu à ce que c'était d'habitude.
La mise en scène, c'est que Jean-Pierre Mocky savait qu'il avait en permanence un micro de l'émission Striptease sur lui. Peut-être qu'il en rajoutait, mais je l'ai connu comme ça aussi sur les tournages, notamment cette relation conflictuelle dont ils jouaient l'un et l'autre avec Edmond Richard, le chef opérateur, c'est qu'on entend dans cet extrait, parce que évidemment, Mocky ne pouvait pas admettre qu'il faille laisser du temps à la technique. Et il était déjà en train de penser au plan suivant, c'est ça qu'on ressent. Et ce leitmotiv de moteur-moteur, c'est quelque chose qui était tout le temps présent. Il disait moteur dès qu'il se levait le matin, avant même que les machinistes aient sorti du matériel, il disait moteur. Donc là, et sans caméra, je veux dire sans caméra de télévision, donc ça n'est pas joué. Ça, c'est en fait, il jouait de son image. Mais ça avait un fond de vérité. Il était comme ça. Il avait pris peut-être assez rapidement, parce que dès les années 60, on voit ça dans des reportages de télévision, il avait pris conscience du personnage qu'il pouvait être sur un plateau de cinéma.
Alain Crugère, vous qui avez tourné aussi
j'ai été son banquier, donc je le renvoyais à la rue dans le... C'était pas moteur, c'était mentor. Mais
le guide
un de ses derniers films. Mais, enfin, c'est... Un de ses nombreux derniers films. Non, moi, ce qui me touchait chez lui, c'était parce qu'on avait fait des pubs aussi. On a fait des pubs pour C'est à Paris. Et il y avait 50 figurants, 50 actrices. Et c'est vrai qu'il était ce personnage-là. Et il ne pouvait pas s'empêcher même de rajouter... des scènes qui n'étaient pas dans le scénario. Mais il apportait sa touche, qui était toujours une touche pleine d'élévation, pleine d'élégance et de poésie.
Alors, il pouvait être aussi comme ça dans, on l'a vu, en bureau, hein, en dehors du tournage.
Crier moteur dans les bureaux.
Dans les bureaux, et non, mais hurlant, en effet, cherchant des documents, des papiers, hurlant après les techniciens, les assistants, ça, on a pu le voir aussi, même en effet, dans sa vie privée, et c'était un personnage comme ça, ou en couleur.
Moteur, le cri de guerre de Jean-Pierre Mocky. Alors, interrompons-nous, Éric Leroy, là, au sommaire de votre livre, qui est assez éloquent et qui montre bien la nouveauté. Effectivement, et tout le travail que vous avez effectué. Bon, il est produit en Marty, c'est une enfance polonaise, notamment niçoise. Ensuite, il y a de Mokiejewski à Mocky, donc c'est la naissance d'une identité, la naissance d'un acteur au théâtre, à Paris et en Italie. Mais alors après, quelque chose, moi, qui m'a interpellé, comme on dit, c'est que vous mettez les deux années qui suivent, qui sont des années déterminantes, de 58 à 72, pas moins, et de 73 à 82, c'est quand même un bloc essentiel, c'est toute sa carrière, là où les choses se font les plus importantes, sous le signe de deux femmes, Véronique Nordès, sa première épouse, et Marisa. On découvre l'importance des femmes, je dirais, comme mentor, pour reprendre le mot de la Crugère, dans la vie de Mocky, à la fois comme muse, bien évidemment, comme incarnation plastique, esthétique, dans les films, mais sur le plan de la vie quotidienne, de la production, de l'organisation des films, et même de la rédaction des scénarios, ça, vous avez amené quelque chose de totalement neuf.
Oui, en fait, c'est en plongeant aussi dans les archives, parce que je suis un homme d'archives aussi, donc
oui, j'ai
beaucoup travaillé dans les archives de Jean-Pierre Mocky, à la fois les archives de production et aussi grâce aussi aux documents que m'ont apporté Stanislas Nordet, son fils, et Olivia Mokijewski, sa fille, qui m'ont permis de pouvoir vraiment voir dans le concret le travail, l'importance de ces deux femmes. D'abord, Véronique Nordet, en effet, qui a vraiment été vraiment présente à tous les moments de la chaîne des films, de l'écriture jusqu'à même à la sortie des films. Elle était très présente. Elle a même collaboré à des scénarios sans être citée. Donc c'est vraiment important de pouvoir remettre à niveau, je dirais, une histoire du cinéma et une histoire de Jean-Pierre Mocky et une histoire de ses films en mettant à leur place ces deux femmes. Donc ça s'est imposé en fait naturellement. C'est parce que la rupture que j'évoque dans mon livre de Véronique Nordet, lorsqu'elle s'en va, il y a vraiment dans l'œuvre cinématographique de Jean-Pierre Mocky une vraie rupture formelle, esthétique, avec deux ou trois années d'absence.
Pour qu'on cite,
voilà, exactement. Et puis Marisa qui va devenir Marisa Mocky. C'est pour ça que j'ai choisi en fait Nordet, le nom de famille pour la période Véronique Nordet, et le prénom pour Marisa parce qu'elle s'appelait Mocky. Donc c'est vraiment important dans son œuvre, la place de ces deux femmes. Elles ont beaucoup compté, elles n'ont jamais ou très peu été citées dans les ouvrages et dans la carrière de Jean-Pierre Mocky. Donc ça me semblait vraiment important de pouvoir les mettre là où elles devaient être.
Alors les dernières parties, la Mystère Mocky, les années Mystère Mocky et les années Voltaire. Alors Voltaire, c'est là où il résidait.
Exactement.
On a même, pour certains d'entre nous, fait visite à Jean-Pierre Mocky, qu'est Voltaire, et Mystère Mocky.
Ça correspond à un documentaire qu'il a fait pour Cinéma, Michel Bouju. Et c'est vrai qu'il a beaucoup utilisé le nom Mystère Mocky dans les deux sens à cette période-là. Et donc, ça m'a semblé tout à fait juste de pouvoir enchaîner Marisa, les années Marisa avec les années Voltaire, avec les années Mystère Mocky, parce qu'elles correspondent à cette période, notamment avec Godard aussi, avec plein de films un peu en marge en fait de la production, et ça correspond aussi à beaucoup de films qu'il a fait aussi pour la télévision. Il a commencé à retravailler un peu pour la télévision, ce qu'il avait très peu fait à cette période.
Philippe Rouillet.
Oui, parce qu'après il y aura une série qui s'appelle carrément Mister Mocky.
Tout à fait.
Voilà, qui est plus tard.
Beaucoup plus tard.
Qui est plus tard, mais on voit déjà. Enfin, ce qui est fascinant, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, il, par ce personnage qu'il a créé sur ses plateaux, mais aussi médiatiquement, il arrivait à un certain culte du metteur en scène. C'est-à-dire qu'il arrive à être aussi connu comme silhouette presque qu'un Hitchcock, par exemple. C'est pour ça qu'il peut avoir une série comme Mister Mocky. Il y a très peu de cinéastes, quelle que soit leur qualité, qui en France pouvaient avoir leur nom dans leur propre série. Je crois que ça arrive à Chabrol, et encore très peu. Rien n'est comparable à ce point, et sa silhouette, sa voix, ce côté moteur qu'on a entendu avec autant de plaisir tout à l'heure, énormément de gens connaissent ça, et je trouve ça assez fascinant. Et alors le travail qui est assez extraordinaire dans ce livre, c'est justement de débarrasser le mythe, c'est-à-dire on l'aime. On voit bien, Éric Leroy, que vous le célébrez. Vous avez beaucoup connu Mocky, et il y a tout ce travail. Et par exemple, on voit bien, c'est quand même pas très sympathique, cette manière d'avoir éliminer ses femmes, pour garder toute la couverture à lui. Alors évidemment, je vois très bien comment il pourrait expliquer. C'est pour la bonne cause. On va tout capitaliser sur un nom, sur une figure, et puis ce sera le ménage qui en profitera et ma filmographie. Mais enfin, c'est quand même un aspect du personnage. Si les autres biographies n'en parlaient pas, c'est parce qu'il avait bien pris soin de, et c'est le retour aux archives qui fait que cet ouvrage-là apporte une vraie pierre à l'édifice.
Eric Leroy.
Oui, tout à fait. C'est comme je le disais tout à l'heure, le fait de remontrer, de faire revenir à la surface ces deux femmes qui ont une importance même dans la forme des films même, parce qu'on voit Véronique Nordet à quel point elle était présente à la fois à l'écriture, sur les décors, même jusqu'à l'économie des sociétés, puisque là il était, alors on pourrait en parler, Jean-Pierre Mocky, producteur très jeune, très tôt, dès 1960 et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à racheter même des films qu'il n'avait pas produits, jusqu'à faire un patrimoine cinématographique conçu.
À quel
conçu.
Moment il prend conscience qu'il rachète les droits de ses propres films?
Ça apparaît dans les années 90, mais il est producteur très, très, très jeune. Hein. Tout de suite, il devient producteur avec Balzac Film. Il produit ses films, et lorsqu'il n'a pas produit ses films, il les a rachetés dans les années 90. Donc, il a constitué ce qu'on appelle maintenant la société, Mocky Delicious Products, qui est une société qui regroupe l'ensemble de son patrimoine en fait cinématographique. Et très tôt aussi, il a veillé à ce que le matériel de ses films soit déposé au CNC. Il rachetait le matériel. Enfin, et puis chez lui, dans les bureaux, c'était mais hallucinant puisqu'il récupérait aussi tous les matériels publicitaires. Une sorte de boulimie aussi de documents, d'archives, classés, pas classés, reclassés, déclassés. Enfin bon, c'était une sorte de folie.
Il s'archivait lui-même.
Oui, c'est ça. Voilà.
Puisqu'il découpait, les critiques de presse également. Et il découpait tout, même les programmes de télévision. Et il regardait les étoiles. Et donc, il dit, ah, mais c'est bizarre, la télé 7 jours m'a mis 3 étoiles alors que... Avant, j'en avais 5 pour le même film. Ils m'ont enlevé 2 étoiles. Ça avait beaucoup d'importance pour lui, les étoiles de Télé 7 jours. Et il collait ça dans des albums. Enfin, il se collectionnait. Est-ce qu'il était narcissique? Oui. Je me souviens, l'énorme portrait de l'homme en noir dans Solo, avec le chapeau feutre noir, il en avait fait un contreplaqué. C'était... D'ailleurs, un système promotionnel pour faire des tournées, je crois, dans les MJC, non ? Ce contreplaqué. Après, il s'est retrouvé au Quai Voltaire en permanence. Là, il recevait des acteurs ou des producteurs chez lui, des scénaristes. Il y avait cet immense portrait en contreplaqué qui était dans un coin.
Alors, pas comme tellement, là, d'habitude, Mocky, alors, mais non, il y a les films, ça, ok, mais c'est les entretiens enregistrés à la télé, à la radio qu'il a donné, il y a les mémoires et les souvenirs qu'il a écrits, tout ça, c'est autre chose, mais là, on peut avoir un contre-champ avec les contrats, avec tous les documents administratifs, presque.
Mais surtout, ce que j'ai apprécié dans le livre d'Éric Leroy, c'est qu'on a aussi tous les films non faits. C'est-à-dire que, il faut dire, c'est quand même anormal. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire, il a fait tellement de films, tellement de films, et il avait aussi tellement de films non faits, c'est-à-dire de projets de films en permanence. Mais c'est un homme, il se lève le matin, d'accord, il dit moteur, mais surtout, il a une idée de film. Tout le monde peut dire moteur, tout le monde peut pas avoir une idée de film nouveau tous les jours. Moi, je suis vraiment impressionné. Je suis impressionné par la créativité de Mocky que le livre révèle. Et cette espèce de folie créatrice, et je sais pas comment vous avez eu accès à tous ces films non faits, quoi, tous ces projets de films.
Éric Leroy.
Presque tout. Alors, il y en a deux que j'ai mis en avant, hein. Oui. C'est Les Carrossiers de la Mort.
Oui.
Parce que,
film, jamais, toujours rêvé,
tout le temps.
Mais c'est pas, alors, ce qui était passionnant, c'était justement de replonger dans tous ces documents qui étaient, pour la plupart déclassés quand même, mais de voir à quel point régulièrement Les Carrossiers de la Mort, c'est un projet qui revient régulièrement avec d'autres comédiens, d'autres producteurs, ça doit se tourner, ça se tourne pas, enfin jusqu'à très tard, jusque dans les années 90 quand même. Et puis il y a eu Fleur de Rubis qui aurait dû se tourner, qui aurait dû être le seul et unique film de Jean-Pierre Mocky à costume, qu'il n'a pas pu faire. Et puis les milliers, enfin oui, on peut dire les milliers,
oui,
dont de documents, de scénarios, d'idées incroyables, de folie. Par exemple, la série noire, il était fou de série noire, on en parlera, mais par exemple, il a acheté 2 exemplaires de la série noire et il les découpait et il remontait, en fait, il faisait des adaptations à partir des exemplaires et il n'en a pas tourné. Mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y a plein de projets qu'il avait, des idées.
Avec Tardy.
Il y en a qui revenaient, qui classaient, qui revenaient. Les Saisons du Plaisir, c'est un projet des années 60. Enfin bon, il recyclait. Il le gardait, il mettait de côté, il avait toujours quelque chose à tourner.
Le Renard Jaune aussi, c'est un
Le Renard Jaune également, enfin, oui. Tout à fait.
Alors, tous ceux qui sont présents autour de cette table ce soir ont choisi un extrait emblématique, puis fétiche, du cinéma de Jean-Pierre Mocky ou des documentaires qui lui sont consacrés. On écoute le choix de Christophe Bille.
Hey, Mocky, avec ton mauvais goût, tu ne passeras jamais à la télévision. Bon.
Spécial Mocky, venez voir les films de Monsieur Jean-Pierre Mocky, Les Talons, Un don de Parisien, La Bourse et la Vie, et Mon puce sur la commode. Un des meilleurs réalisateurs.
Spécial Mocky, venez voir
les films de Monsieur Jean-Pierre Mocky, Un des meilleurs réalisateurs. Un don de Parisien, La Bourse et la Vie, et j'en passe et des meilleurs.
Tu crois qu'il y aura du monde ce soir? Tu crois qu'il y aura à bouffer? Oh, tu ne penses pas à ça.
Hé hey. Allez.
On m'a demandé d'écrire une lettre. Alors la voilà. Mes chers amis, ou mes chers ennemis, vas-y voir. Je suis un cinéaste, plutôt indépendant. Certains disent anarchiste, mais là je crois qu'ils se gourrent.
Vous croyez qu'il va y avoir du monde?
Je crois, oui. Moi aussi.
Et vous venez souvent présenter vos films?
Souvent. Moi, je viens pas tous les jours.
Et pourquoi?
Même pour voir la gueule de mes spectateurs. Eh oui, c'est pour voir leur gueule.
Voilà, le choix de Christophe Bille. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Eh bien, c'est le début de la lettre d'un cinéaste, Mister Mocky, qu'il avait réalisé pour l'émission de télévision Cinéma. J'ai voulu cet extrait pour le plaisir d'entendre Jean-Claude Rémolleux, qui est un peu ce Sancho Panza de Jean-Pierre Mocky dans ce film qu'on entend au début, là, avec cette diction improbable. On entend aussi Antoine Mayer, on entend Jean Abeillé. Ce sont des noms qui sont peu familiers aux cinéphiles, sauf aux amateurs de Jean-Pierre Mocky, mais qu'on retrouve constamment dans les pages du livre d'Éric Leroy. Je voulais souligner l'importance de ces figures qui sont ce qu'on appelle souvent, on dit des gueules. D'ailleurs, Mocky utilisait ce mot, mais c'est un mot un petit peu informe,
réducteur.
En fait, qu'est-ce qui le passionnait chez Jean-Claude Rémolleux, qui est vraiment l'archétype même, enfin, c'est plus qu'un archétype, c'est quelque chose d'impensable. Ça n'était pas seulement un physique, ni une voix improbable, ni une diction, ni une myopie qui semblait l'envelopper entièrement. C'était plus que ça, c'était quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'étrangeté. Et donc, on voit souvent dans le cinéma de Mocky des Minerves. Alors, il suffit pas d'avoir une Minerve pour que ça devienne un personnage mockien. Encore faut-il que la Minerve soit portée par Eric von Stroheim ou par Jean-Claude Rémolleux. Donc, le concept des seconds rôles qui est très fort, que Éric Leroy aborde énormément dans son ouvrage, c'est très difficile à cerner. Ça n'est pas juste des physiques. C'est quelque chose de beaucoup plus particulier qui a trait presque au fantastique. C'est une sorte d'étrangeté, de bizarrerie. Donc, il m'avait chargé, quand j'étais son assistant, de trouver Il me disait d'ailleurs, trouve des gueules, Beer, il faut que tu me trouves une gueule maintenant, parce que moi, je ne peux pas faire mon film, sinon, si je n'ai pas de gueule. Mais c'était pas... Je l'ai trouvé, je ne sais pas comment, il fallait aller dans la rue, partout.
Alors, comment vous faisiez, Maître Beer?
Il ne fallait pas aller dans... Les gens me disaient tout le temps, tu vas aller dans un bistrot. Mais dans un bistrot, je n'ai pas forcément des gueules, j'ai des poivreaux, mais je n'ai pas quelque chose... Qui va tout d'un coup apporter une poésie. En fait, je pense que Jean-Pierre Mocky était sensible à ça. Un personnage qui apporte une musique, et ça fait partie de ces ruptures de ton qui sont également soulignées par Éric Leroy. Tout d'un coup, il y a un plan de coupe, un personnage, les rôles principaux n'existent plus. Il n'y a plus Céro, il n'y a plus Poiret, il n'y a plus tous ces gens. Et il y a comme si un nouveau film apparaissait en l'espace de quelques secondes. Et ça, c'était très typique du cinéma de Mocky.
Éric Leroy. Bah,
tout à fait, parce que c'est vrai ce que vous dites. Parce que ce qui est incroyable, c'est quand on parle vraiment concrètement, techniquement d'un film, je dirais, il y a des scènes, des plans normaux, et d'un seul coup, il y a des ruptures. Le nombre de ruptures qu'il y a dans les films de Mocky, les plans de coupe, comme vous dites, mais alors ça peut être des animaux d'ailleurs.
Oui.
Il y a aussi des animaux, on va en parler, parce qu'il y a des chiens qui parlent, qui aboient, il y a des ruptures comme ça, de ton. Mais alors là, j'en parle au moment du montage aussi de ces films, parce que les monteurs et monteuses devenaient dingues avec lui. Puisqu'il arrivait, il disait, mais coupe-moi ça, et coupait, et alors, en dehors de toute grammaire cinématographique, si on parle de grammaire cinématographique, en dehors de toute normalité, je dirais, de technique, il coupait et il mettait en effet des gueules, des visages, des sons, des bruits. Et ça, c'était vraiment sa technique et son écriture cinématographique.
Mais Alain Kruger.
C'est vrai que Jean-Claude Rémoleux, bon, il y a même une association qui s'appelle Marinella qui soutient cette noble cause. Jean-Claude Rémoleux, c'était aussi un peu son monolithe. Hein, c'était le monolithe de Kubrick, pour faire plaisir à Philippe Rouillet. Et c'est vrai que c'est important d'imaginer cette stature, cet homme très massif, qui était en plus issu d'une famille très riche, ce qui devait faire plaisir en plus à Mocky.
Prise unique, c'est l'héritier prise unique.
Un héritier prise unique. Et qui plaisait aussi, qui a attiré aussi Godard, qui a attiré...
Il ressemblait à un morse un peu.
Un peu,
il avait quelque chose du morse. Et alors, il y a une anecdote, c'est sur l'étalon. Il y avait donc Rémoleux dans le film.
Avec Bourville sur le repeuplement de la France.
C'est Lonsdale qui m'a raconté ça. Lonsdale était sur le plateau avec Bourville, arrive Rémoleux, et puis Mocky leur dit « Voici mon meilleur acteur, il est très bien lui, ça c'est un acteur.
» En fait, ça a aussi un rapport avec l'utopie pour moi. Quand on voit toutes ces figures chez Mocky, et la place qu'elles ont, et le fait que Jean-Claude Rémoleux, ou Jean Abeillet, ou Antoine Major soient aussi importants que Jean Poiret, que Michel Serrault, que Catherine Deneuve, soudain, c'est la victoire des freaks par rapport aux gens qu'on dit beaux ou grands ou qui ont réussi. Ils sont tous quand même au même niveau à ce moment-là. Ils ont même une longueur poétique d'avance parce que c'est eux qui donnent le là. Ils viennent interrompre le flux de l'actorat normal pour apporter cette pointe-là. Et quand on aime les films de Mocky, c'est ça qu'on va rechercher. Alors on va rechercher la confrontation des deux.
D'ailleurs, on peut le dire, Antoine Maillard, qui est une gueule. Alors.
Oui, il était atteint.
Mocky, il habitait dans le quartier Bercy et il faisait
l'acromégalie.
Il faisait ses cours dans le quartier Bercy et il déclenchait immédiatement une curiosité et les gens référaient au film de Mocky. Oui.
Je me souviens que première fois que je l'ai vu, c'était dans un marché aux puces. J'ai osé l'aborder. Il m'a tendu la main et j'avais les jambes qui tremblaient. Peut-être d'émotion, je ne sais pas, mais j'étais impressionné.
Ouais. Alors on continue notre tour de table et notre anthologie sonore. Jean-Pierre Mocky, après le choix de Christophe Beer, celui d'Alain Kruger, un extrait de La Cité de l'Indicible Peur d'après Jean Rey, 1964.
Petit chauffard,
et quand tu n'écraseras qu'un chien seulement.
Et docteur Clabert est encore gros comme une bourrique. Moi qui le fais exprès.
Dites donc là le piéton. Et les clous. Qu'est-ce qu'on fait des clous? les clous. Mais je n'en vois pas.
Vous ne les voyez pas, mais ils existent tout de même. Ah. Par arrêté municipal, on devait traverser là.
Ah oui. Mais vous ne trouvez pas que ce conducteur est un véritable danger public?
N'insultez pas le docteur Clabert.
Ah, pardon.
Il conduit de travers, mais c'est à vous de marcher droit. D'ailleurs, est-ce qu'on marche droit? On me fait voir si on marche droit. On fait quelques pas jusqu'au mur.
Mais vous ne me prenez tout de même pas pour un ivrogne. Frileux, peut-être.
On avance.
Et ce docteur machin, est-il frileux?
On a des questions bizarres.
Est-ce qu'il déteste le cassoulet?
On me fait l'effet d'un drôle d'individu.
Chouette, on va avoir un visiteur.
Le chasseur? Ou bien que l'a épinglé? Quoi?
Il discutaille. C'est sûrement un dingue, hein?
Ne juge pas à la légère, mon petit.
Mon petit.
À la crugère.
Quoi?
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 Alors là, ce qui est formidable, c'est quoi? Là, on a un lot. On a un lot entier.
Quoi?
Donc, on a Victor Francène, le docteur.
Docteur Clabert.
Hein, toute mort est naturelle. Hein, quoi? Quoi? On a Raymond Rouleau, quoi? Et on a Véronique Nordet, voilà. qui est l'assistante du maire Raymond Rouleau, qui avait mis en scène Mocky. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a aussi Jean Poiret qui va inventer le de Chabrol.
De la Vardin.
On va avoir aussi Francis Blanche, qui est une des créatures les plus merveilleuses. Alors là, on rate du philo et on rate aussi, bien sûr, Jean-Claude Rémeleux, qui nous fait une très belle « La bête !» qui est quand même très importante. Parce que crier « La bête », voir ce film et avoir quand même très peur de cette barjasque, qui est une bête effrayante, c'est un truc absolument capital. Et il y a aussi cette très jolie musique de Gérard Calvi, que l'on pourrait d'ailleurs chanter. La, 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 la,
chanter,
la,
chanter, la, messieurs,
la,
chanter.
La, 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 la. Hélas, hélas, fatalitas. Tout ça, pour moi, tout ça, c'est vraiment ce qui. C'est Mocky. Et en plus, comme Eric le relevait, on voit que là, on est en pleine période Véronique Nordet, puisque c'est elle qui est l'ange noir du film. Et c'est aussi, pour moi, quelque chose de très important, parce que Marguerite Renoir a fait 9, qui était la monteuse des meilleurs films de Renoir, qui était la monteuse de grands chefs-d'œuvre de Becker, qui travaillait avec Buñuel. Enfin, elle a fait 9 films. Ses derniers films sont tous avec Mocky. Et même Chute, que nous aimons beaucoup.
Et qu'on a vu.
Et qu'on a vu grâce à
Christophe Beer à l'Étrange Festival.
À l'Étrange Festival. Vraiment, on voit que dans cette période-là, il y a aussi une modernité dans le montage qui est absolument extraordinaire. Et ça, Eric le pointe.
Alors ce film en particulier, c'est un des films.
Alors tiré d'un Jean-Pierre Mocky, classique du fantastique belge. Vous voyez, on anticipe un peu sur la littérature belge de Jean Rey, avec une adaptation Gérard Klein, spécialiste et éditeur et auteur de science-fiction, Raymond Queneau.
Et Raymond Queneau,
non cité. Mais c'est un film qui a beaucoup souffert, en fait, hein, parce que il y a une première version qui a été redécoupée, enfin remontée par les producteurs, et Jean-Pierre Mocky, là, a racheté le film quelques années plus tard, et a refait sa propre version, parce que le film était donc sorti sous le titre La Grande Frousse.
La Grande Frousse.
Et c'est donc avec Véronique Nordet, d'ailleurs, qu'il a rétabli la version originale qu'il voulait, à l'occasion de la première rétrospective qu'il a eue à la Cinémathèque française, et que Henri Langlois et Bernard Martinan lui ont offert en 1972. C'était juste
Et il y a quelque chose que je trouve très fort dans ce film, c'est qu'il y a vraiment l'incarnation de l'esprit d'enfance dans le personnage d'André Bourvil, où il est tout le temps, il ne marche qu'en sautillant comme les enfants qui sont à cheval. Et donc il est à cheval pendant tout le film. Il y a d'ailleurs des chevaux, le film début, s'ouvre.
Des chevaux sur un autoroute, très apocalyptique.
Et il y a chez Jean-Pierre Mocky cet esprit d'enfance que je trouve aussi permanent et que Eric pointe aussi dans son.
Alors, Eric Leroy, ça nous permet d'évoquer la question des genres chez Mocky, puisqu'il s'est exprimé, évidemment, dans le grotesque et la critique sociale, on va en reparler, mais surtout dans le polar. Vous avez abondamment parlé là de son rapport à la série noire, dans le fantastique, dans évidemment l'humour, mais avec un souci de ne jamais coller, je dirais, à un label, une labellisation, un style, à des règles, à des codes, à brouiller les cartes des gens en permanence, de les faire apparaître tout le temps, mais de les ne jamais de nous livrer impurs, d'une certaine façon.
C'est ce qui fait sa particularité dans l'histoire du cinéma français. Je crois que c'est très difficile de pouvoir lui trouver une généalogie. Il a plusieurs généalogies. C'est quand même le réalisateur français, je crois, le plus indéfinissable. Finissable dans une histoire du cinéma français. Il a un parcours. Il a eu un parcours d'abord de comédien.
Le comédien, oui, en Italie.
Il n'a pas suivi
puis en France.
Il n'a pas suivi les normes habituelles du cinéma. Il n'a pas été à l'école du cinéma. Il n'a pas fait l'IDEC. Il n'a pas été assistant. Il a découvert le cinéma en tant que comédien. Il a regardé comment les films se faisaient. Il est devenu metteur en scène complètement en dehors de toutes les normes habituelles, même de la nouvelle vague, hein, puisqu'il n'était pas critique, historien, il était cinéphile. Et donc, c'est vrai que la manière dont il a abordé le cinéma et les thèmes, les sujets et les genres, c'est complètement en dehors de toute normalisation, si je puis dire. Il a brouillé les cartes volontairement, et c'est vrai que dans des films, que ce soit dans des polars ou des films fantastiques ou des comédies dramatiques, il y avait toujours un élément d'un autre genre qui apparaissait dans ses films. C'est toujours un peu de la manière aussi comment il rompait, enfin, les montages de ses films. C'est exactement la même procédure qu'il utilisait pour pouvoir faire ses films. C'est vraiment d'aller dans tous les genres et d'utiliser toutes sortes de sources, en fait, de l'histoire du cinéma.
Pas comme tellement.
C'est-à-dire qu'on a presque l'impression qu'il est déjà en train de faire le film suivant quand il est en train de faire un film. Il est déjà en train de préparer le suivant. Donc, de toute façon, le film échappe à la finition. Quelque chose qui m'avait marqué, que Mocky avait dit dans Mauvais Genre, c'est il n'y a pas de bon film. Qu'est-ce que c'est un bon film? Parce que je crois que vous lui posiez la question de s'il avait des films qu'il trouvait meilleurs que d'autres, etc. Pour lui, clairement, quand on lit votre livre, on voit que de toute manière, c'est un espèce de flux créateur complet dans lequel les films sont comme des prélèvements momentanés. Il faut aller vite, il faut les tourner vite parce qu'ils vont vite disparaître, en fait. C'est-à-dire, si on n'attrape pas l'idée au moment où elle se donne, ça va être très difficile de pouvoir retrouver les conditions de... Et ça, c'est incroyable. Vous citez combien de films n'ont fait, quoi, et combien de choses qui se superposent, quoi.
Il y a aussi le travail, l'aspect bricolage. Il faut dire les choses. Il le disait lui-même. Hein. Oui. Je suis un amateur. C'est du bricolage.
Le roi des bricoleurs.
Oui, ça nous amène au roi des bricoleurs. Oui. Son cinéma est fait de bricoles et de bricoles à la fois dans l'écriture aussi, le tournage, le montage. Il était aussi, moi je trouve qu'il y a un côté expérimental, un côté art brut, que j'ai un peu artistique. Défendu parce que je trouve que cette manière d'aller dans tous les sens et d'essayer de composer des films avec des sources différentes et d'essayer de détourner même des tournages, c'est intéressant.
Et en même temps, pour revenir à la Cité de la Visible Peur, qui était quand même ce qu'il considérait quand même comme son chef-d'œuvre, hein, je crois qu'on.
C'est un de ses tout meilleurs films.
Oui, Eugène Schuftan,
chef-op de langue,
hein. Immense chef opérateur, et je reviens à elle, Marguerite Renoir, c'est pas des bricoleurs, ni non. L'un ni l'autre. Hein. Non, donc mais il y a ce mélange des deux.
C'est-à-dire que pour
aussi,
arriver, c'est
ça, comme vous pointez dans le livre.
Pardon, Eric Leroy, je vous interromps. C'est comme dans Loulou d'Alban Berg, l'opéra. À un moment, il y a un personnage qui est sourd et qui chante faux, mais c'est écrit. C'est-à-dire que la partition de Berg, c'est un homme ivre qui chante faux. C'est pareil, Mocky, pour arriver à donner ce sentiment du bricolage, de l'improvisation, du truc fait du talon minute, fallait encore maîtriser totalement le tournage cinéma.
Il voulait des techniciens hors pair.
Bah oui.
Et contrairement donc à la nouvelle vague où tout le monde débutait, c'est pour ça qu'il n'en fait pas vraiment partie. Il avait avec lui, il convoquait les anciens. Les chevronnés, peut-être qu'il avait même vu en tant qu'acteur sur des plateaux. Donc effectivement, Chuftan, il y avait
Léonce-Henri Burel, le chef opérateur de Napoléon, a été sur plusieurs des films de Mocky. Il a terminé sa carrière avec, je crois, Les Compagnons de la Marguerite.
Ce qu'il aimait bien, c'était qu'en cours de tournage, il aimait bien que les choses se déglinguent à un moment donné. Donc les premières victimes, alors Edmond Richard qui gueule, etc., bon, peut-être, mais les premières victimes, c'est le staff de la production, les régisseurs, les directeurs de production qui tout d'un coup sont dépassés, ne savent plus ce qui va être tourné demain. Et ils prenaient ce risque, qui semble insensé, parce que, en fait, c'est ce que vous avez dit au tout début de l'émission, qui est très vrai. Il faisait du cinéma pour s'amuser. Et il le disait souvent, il faisait du cinéma pour ne pas s'ennuyer. Enfin, ça revient au même. Mais il fallait qu'il s'amuse, et pour lui, ça n'était entre guillemets pas sérieux. Et donc, quand il mettait plus qu'un grain de sel dans le cours du tournage et que tout se déglinguait, c'était souvent à partir de la troisième semaine. Il n'y avait plus le plan de travail volait en éclats, et les directeurs de production disaient : « Mais qu'est-ce qu'on fait demain ?» Demandait ça à l'assistant qui lui-même était sur le plateau. Il dit : « Je ne sais pas, on ne sait pas. Mais il y a des figurants et on doit. Mais on verra bien, on verra. » Et Mocky disait : « Écoute, j'allais le voir en lui disant : « On me demande ce qu'on doit tourner demain. » Il me répondait : « Mais espèce de con, tu vois pas que je suis en train de tourner, et m'emmerde pas avec tes questions. Là, on tourne en ce moment, on verra bien ce qui se passe demain. » C'était ça. C'était donc. Il y avait une rigueur avec l'équipe technique, mais il s'ingéniait à instaurer un déséquilibre. Et ça l'excitait créativement.
Alors, ça l'excitait créativement. On va passer une forme d'excitation toute particulière avec vous, Philippe Rouillet, le trailer, la bande-annonce, tout ce qu'on veut, du Miraculé.
Il l'a réalisé lui-même, bien sûr.
Allons vers le Seigneur, retrouver le paradis. Nous partons sur le chemin, trouver l'oreille des cieux. Nous découvrons la prière, bénis-nous dans mon air. Partons sur le chemin, trouver l'oreille des cieux. Nous découvrons la prière, bénis-nous dans mon air. Rejoins-nous tour à tour, le servir en toujours.
Vous avez 3 minutes, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Top.
Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai filmé à Lourdes. C'est une comédie pour rire. Je m'appelle Jean-Pierre Mocky. Ah bon, tu me connais pas ?
Ah merde alors.
J'ai engagé Poiré, Serrault, Moreau, et puis comme ça, j'ai ajouté des choses dans le film pas très catholique. Je crois que Satan m'habite. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Ben, je suis venu à confesse. Parce que Satan m'habite.
Voilà, monsieur Rouillé.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas vu ce film, qui est recensé dans le livre de Eric sous le nom de Satan m'habite. Hein, ce serait l'heure. Ça s'est tourné sur les Champs-Élysées où il a installé des confessionnals. Donc il y a une vision un peu futuriste. Hein, c'est les Champs-Élysées sous la neige. Il y a trop une file d'attente, donc il va à un deuxième. Et c'est un confessionnal vidéo. On met une pièce parce que l'argent est bien là dans cette dénonciation de la religion catholique et du commerce qui en est fait, et on choisit sa langue, et il y a ce curé qui est joué par Gérard Couder. Alors c'est assez étonnant parce que Gérard Couder, j'en ai parlé avec Christophe Beer, c'est pas quelqu'un qui est très connu dans le cinéma de sauf erreur, je l'ai pas vu dans d'autres films de Mocky. Par contre, c'est quelqu'un qu'on voyait chez Zidi, chez Christian Gion et tout ça, et donc il joue ce curé qui au début est offusqué. Il y a un effet spécial pour le mettre rouge, cramoisi, et puis tout d'un coup il va rire, et le rire va être communicatif. Alors à ce moment-là, on a la liste, parce que c'est une bande-annonce, mais alors que c'est une chute, je veux dire, tout le monde rigole, voilà, la chute, la bande-annonce continue, et la bande-annonce continue avec tout d'un coup la voix de Dieu, et il y a un autre effet spécial qui irradie tout en blanc la cabine du confessionnal, et pour donner cette deuxième chute, qui est la sortie du film, le 18 février, soit le jour de la Sainte Bernadette. évidemment, pour ce film qui est Le Miraculé. Et ce film est tourné, cette bande-annonce est tournée avec grand soin par Marcel Combes, qui est le chef opérateur du film, qui fera après beaucoup d'autres films avec Mogi, qui est un grand chef opérateur. Et donc, pour ce, c'est réellement tourné comme un court-métrage, mais avec cette idée de faire feu de tout bois, de faire du commerce. Et ce qui est très intéressant, c'est évidemment sa vision de la religion, quoi. J'ai péché, j'ai filmé, et on y retrouve aussi, comment tu me connais pas Dieu? Enfin, je veux dire, c'est quand même moi, Jean-Pierre Mogi. Enfin, il y a ce mélange tout à fait délicieux. Et on voit quand même le prêtre qui, une fois qu'il a mis la pièce, vous avez 3 minutes, top. C'est genre, c'est pas tout ça, mais il faut que ce soit rentable, les affaires de la religion. Ce qui renvoie évidemment au film Le Miraculé, où est dénoncé ce côté très marchand du temple.
Annie, Annie, Allô, madame, le train, il vient de partir. Je suis avec Ronald.
Ça, c'est le choix de Laurent Ponré.
C'est un moment anthologique.
Alors, Éric Leroy, ça, c'est la... Miraculé pose, qui était un succès, pose les questions quand même du rapport, la critique des institutions par Jean-Pierre Mocky, puisque là, il s'attaque à un pèlerinage mondialement célèbre et fréquenté, mais il s'attaquera aussi à... Enfin, c'est la deuxième fois, après Un drôle de paroissien avec Bourville au tout début de sa carrière, mais il y a aussi les institutions politiques et les institutions militaires. Donc, effectivement, là, c'est le Mocky libertaire. Son rapport à la politique, quel était-il ? Est-ce qu'il était aussi libertaire qu'il en a l'air dans son cinéma ?
Oh ben, je pense que oui, moi, tout à fait. Il était dans, c'était à la fois dans sa vie, à la fois privée, donc on voit comment on pouvait évoquer la politique avec lui. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui était quand même en dehors aussi de toutes les normes. Il n'avait pas peur d'aborder tous les sujets, quels qu'ils soient, politiques, sexuels, la société. Et il s'est inscrit dans aucun courant, en fait. Donc, on revient toujours au même schéma, en fait, hein. Il était complètement en dehors de tous les schémas traditionnels. La politique, il l'a abordée dans très nombreux films, très tôt, hein, très très tôt. Il a, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ses films, de sa carrière, il a toujours critiqué la société. Il a, je crois aussi, par sa critique, essayé de proposer des modèles de société. Je pense que c'est intéressant de voir aussi comment, par ses critiques, il a pu peut-être proposer des modèles de société, à la fois politique, mais aussi la religion.
Il y a une fascination utopique chez lui.
Il y a
une nuit
chose
à l'Assemblée
ça,
nationale,
exactement.
Ça met en scène une sorte de phalanstère écolo.
Tout à fait. Et ça,
Blanc,
ça revient dans beaucoup de ses films.
Nudiste.
Beaucoup de ses films.
Et Les Talons, qui est un grand film généreux.
Oui.
Toutes ces femmes délaissées, qu'il propose une solution thérapeutique tout à fait altruiste.
Philippe Rouillet, vous pensez aussi qu'il y a une dimension messianique chez Jean-Pierre Mocky, qui
alors,
a à la fois une critique
pas, mais
du vieux monde et un désir de fonder autre chose.
Utopiste, certainement. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la politique de la terre brûlée, c'est pas on se contente de critiquer, c'est on propose autre chose et il y a une poésie et qui éclate dans certains de ses films et c'est pour ça qu'il a un rapport au fantastique très intéressant. Il faut revoir un film comme Litan, qu'il avait coécrit avec Jean-Claude Romer et qui explorait ça et qui nous emmène tout d'un coup dans un autre monde.
Christophe Bire.
Les compagnons, je pense aux compagnons de la Marguerite,
voilà,
puisque
aussi.
Là, l'institution du mariage
l'état civil,
est complètement détournée pour éviter des frais d'avocat et toutes sortes de choses. Et pour, c'est du bon sens de Mocky, c'est on échange les on échange ses femmes, ses maris, c'est beaucoup plus simple comme ça. Parce que Jean-Claude Riche, le personnage principal, qui est une sorte de Bourville, ce personnage idéaliste, est un expert en écriture, et donc il découvre son talent de faussaire. Il peut comme ça changer les états civils pour éviter tous ces frais assourdissants d'avocat, toutes ces démarches. Donc ça, c'est là l'utopie, elle est vraiment en marche dans les Compagnons de la Marguerite.
Et dans le rapport, oui, parce que Eric a fait un considérable travail aussi dans les mensonges, parce que c'est aussi un grand menteur. Jean-Pierre Mocquet, on l'a tous testé pendant les entretiens qu'on a pu faire avec lui. Moi, je me souviens quand on a fait à voix nue ici avec lui, il racontait, mais énormément d'histoires totalement fantaisistes, et Eric a fait un travail de défrichage considérable, et l'histoire de l'état civil, c'est pas du tout neutre, parce que aussi bien dans ces histoires de mariage que dans ces histoires de date de naissance, il a triché avec son état civil jusqu'à la fin de sa vie, et on pouvait essayer de lui faire dire qu'il avait 50 plus, il ne le disait pas, il réussissait à jouer avec ça de façon très très amusante.
Malgré toutes les incohérences, en effet.
Malgré toutes les incohérences.
Donc c'est ça qui est aussi... Il s'est créé sa propre histoire, en fait. Ouais. Il a mis en fiction sa vie, son histoire. C'est ça qui est formidable. Je trouve, dans l'histoire du cinéma, on a peu de personnages comme ça. Il s'est écrit sa vie. Il s'est écrit sa vie, quitte à mentir, quitte à raconter les pires mensonges, voire les plusieurs incohérences. Je ne donnais comme exemple les soi-disant assistana en Italie qu'il a fait, qu'il n'a jamais été assistant de Fellini. Il suffisait tout simplement de comparer les périodes, parce qu'en même temps, il était en France en train de tourner des films. Donc,
il aurait dû faire.
Le fameux film porno, Les couilles en or. Alors, Les couilles en or, j'en parle dans mon livre. Justement, et j'en fais
référence à Christophe Beer,
voilà.
Il y a encore des gens qui me téléphonent, persuadés que j'ai tous les films de Mocky pour avoir une copie des couilles en or. Alors, on a beau leur dire que le film n'existe
ne
pas.
Ne téléphonez plus,
mais tu peux avoir une copie quand même.
Ne téléphonez plus, pas de couilles en or. On termine avec le dernier extrait, et sans doute le plus singulier de cette anthologie créée ce soir par les membres de Mauvais Genre, le choix de Paco Ntielman.
À Cayenne, on pourrait ouvrir un bordel.
Ah non, maman, tu vas pas recommencer. Une épicerie, ça suffira.
Le départ à 15h, en voiture.
Ma femme me rejoindra, ils ont promis, ma femme et des cadeaux.
J'ai peur, j'ai très très peur. J'ai peur. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. Oulala.
Il va falloir parler maintenant, Paco.
Oui, il faut que j'arrête de rire. Non, mais j'ai évidemment choisi pour la litanie finale de Jean Abeillé, qui est absolument extraordinaire. Mais bon, pour résumer, ce qui se passe ici à ce moment-là, c'est quand ceux qui vont devoir payer pour l'ensemble des malfrats qui ont détourné le principe des légions d'honneur et qui ont fait des ventes de légions d'honneur.
C'est une nuit à l'Assemblée nationale.
C'est une nuit à l'Assemblée nationale. C'est le film Une nuit à l'Assemblée nationale avec Jean Poiret, Jacqueline Maillan, Michel Blanc.
Michel Blanc nu.
Oui, et je crois son meilleur rôle. C'est un avis personnel, quoi. Mais bref, c'est un film fabuleux et une extraordinaire comédie politique. Mais à partir de ce fait divers.
C'est l'affaire Daniel Wilson qui a véritablement existé.
Qui a absolument existé. Il y a une dérive qui se fait dans le film autour de ces personnages. Et en fait, c'est la façon. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la manière dont ils représentent le monde politique français, à part dans certains films qui sont beaucoup plus graves, comme Solo, par exemple, ou L'Albatros, c'est la façon dont les hommes politiques, même les plus détestables, deviennent dérisoires. Et où, finalement, ils en deviennent très sympathiques. Parce que là, ces pauvres voyous là qui sont envoyés à Cayenne, qui font ce détournement de Légion d'honneur, et bon, ça se termine. En fait, ils vont pas aller à Cayenne, mais bon, ça c'est, je spoil le film.
Regardez-le.
Mais c'est
terminons cette évocation de Jean-Pierre Mocky. Votre Mocky de prédilection, Éric Leroy, si on devait en garder qu'un.
Si on devait en garder. Moi, je garderais Solo.
Solo, Christophe Beer.
Ah, L'Ibis Rouge.
L'Ibis Rouge avec Michel Simon, Pacôme.
Il y en a tellement. Ville à vendre.
Ville à vendre.
Ah, pour commencer, je dirais Le Drôle de Paroissien. C'est une bonne façon de commencer.
Philippe Rouillet.
Y a-t-il un Français dans la salle qui a relancé dans les années 80
Il y a un héritier.
Et d'ailleurs que Jean-Pierre Mocky, dans un film de Godard, prénom Carmen, il joue le rôle d'un malade dans un hôpital psychiatrique et il hurle « Y a-t-il un Français dans la salle ?»
Paloma, Hermine Hidalgo, votre Mocky préféré?
Celui que j'aurais aimé tourner avec lui. Il voulait me faire tourner à poil autour d'un barbecue, mais c'est une autre histoire.
Que vous nous raconterez. Un jour, Jean-Pierre Mocky, la somme définitive sur ce personnage inique, inouï. Elle est signée Éric Leroy et elle est parue aux éditions Rouge Profond. On commence.
Like it cold and wet. Now I know that the rain ain't done. God holding that payday come. Can't afford to betray your trust. Was hyping over Chris. Doing vice again.
La chronique et la chroniqueuse de Mauvais Genre, cette fin d'émission, Paloma Hermine Hidalgo, avec un roman qui, ma foi, aurait pu intéresser Jean-Pierre Mocky de Georges Écoud.
Oui, alors parlons un peu du Jean Genet belge, du Pasolini des Flandres, homosexuel et anarchiste, né en 1854 et mort en 1927. Qui donc ? Georges Écoud, bien sûr, écrivain belge francophone à qui on doit L'Autre Vue, publié au Mercure de France en 1904, et qui reparaît aujourd'hui aux éditions Espace Nord sous le beau titre « Voyou de velours ». L'intrigue ? En deux mots, l'honorable député Bergman, c'est ici dépositaire du journal de Laurent Paridel, un second narrateur, en quelque sorte, un bourgeois déchu, aficionado des voyouteries délictueuses et délicieuses des bas quartiers bruxellois. Alors, Écoud interprète ces croustillants ragazzi de Bruxelles et d'Anvers. Ils campent avec vigueur leur plastique imprévu, leur modelé, leur fumée, les épices de leur guenille, en un mot, leur fauve et transgressive petite personne. Foin ici de ces fils de concierges ministériels promus profs de réto, Écoud, érotomane, manipule comme pâte livresque les rutilants enfants des gueux, ces pouilleux de Velasquez, marqués, et c'est son mot, par l'originelle veulerie prolétarienne. Le velours ? Eh bien, Écoud l'exauce en fétiche, splendeur, de ses culottes à côtes taillées dans toutes les nuances du brun, et d'ailleurs, les rapprochements avec le chocolat et le bronze l'inscrivent dans une analité que l'or à chaque page confirme en l'idéalisant. Toison velu et chaude, les veloureux des coudes sont aussi, je dirais, déveloutés. Parce que l'auteur parle de ces faubouriens et de leurs habits cicatrisés de ravots durs comme de stigmates. Et toute rencontre dans ce roman, disons-le, splendide et rendue déchirante. Haillons de peau, haillons de voix aussi, parce qu'il y a une forme de voyeurisme qu'on pourrait qualifier d'auditif, analyse Mirande Lucien dans sa biographie Écoud le Rauque. On imagine un flamand intime, local, dialectal, une langue rauque, proche de celle qu'il appelle quelque part le bargouinche, un jargon en somme, une langue de gorge. Et dans cette langue, il y a ce qui rend si pathétique et si chaste, paradoxalement, le déchirement. J'entends par là l'inscription intime de la mort dans la jouissance. Et vous-même, chère auditrice, cher auditeur de Mauvais Genre, vous le retrouverez sans doute ce soir, à une heure tardive, au détour d'une rue, ce petit vendeur à la sauvette, nippé de Havane, svelte et beau à crever, onctueux et âcre, balsamique et rêche, prompt à l'injure comme au baiser. Alors, savourez-la cette heure avec ceux des mauvais quartiers qui la peuplent et qui l'érotisent. Voyou de velours de Georges Écoud aux éditions Espace Nord.
Merci Paloma, Hermine Hidalgo pour cette évocation. Mais on fera un jour une émission et vous viendrez sur Georges Écoud. Merci Éric Leroy d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Je rappelle, lisez, relisez, faites lire et faites relire Jean-Pierre Mocky, la somme définitive. Elle est signée Éric Leroy et c'est chez Rouge Profond. La semaine prochaine, nous serons à Nantes où nous parlerons de Lovecraft et de Bradbury à propos de parution Pléiade. Pléiade et de Parution Quarto, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleruy, Anthony Thomasson, Claire Poinsignon, Paloma Hermine Hidago, Claire-Martin Dugard, Philippe Rouillet, Christophe Beer, Alain Kruger, Paco Mtielman et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission.
France Culture.